Alors écoutez, j'ai beaucoup de chance d'arriver à ce moment précis de la journée, parce que effectivement, mettre au centre de l'édifice la colonne vertébrale du rythme et vous dire qu'il est au cœur de tout ce qui a pu être dit depuis ce matin, et d'ailleurs un certain nombre d'intervenants ont explicitement évoqué l'affaire, bien, c'est pour moi effectivement très, très confortable, parce que je crois que le terrain est remarquablement préparé. Alors, entendons-nous bien sur l'originalité de Victor Guerra de mettre le focus, on pèse ses mots, d'une psychopathologie psychanalytique, de mettre le focus sur le rythme. Parce que, pour ceux d'entre vous les plus savants et les plus expérimentés, le rythme, bien sûr, existe de-ci, de-là, et en particulier du côté des vrais observateurs du bébé. Je pense aux observateurs qui se réfèrent à Esterbik et à l'école de Loxi. Mais c'est vrai que mettre le rythme véritablement comme un axe majeur dans une perspective sémiologique, psychopathologique et thérapeutique, c'est vraiment une originalité incroyable de Victor. Et je dois dire, le temps des aveux, que pour le batteur de jazz frustré que je suis, puisque j'ai hésité entre la carrière de psychologue et celle de batteur de jazz, évidemment, à chaque fois que j'avais la chance de retrouver l'ami Victor, j'étais trop content de pouvoir vivre, partager non verbalement, corporellement et verbalement, ce qu'il en était de cette réminiscence profonde et actuelle des rythmes premiers. Et c'est vrai que c'était ça qui était extraordinaire avec lui, c'est qu'on le vivait vraiment quand on le rencontrait. Ce n'était pas quelque chose de discontinu, d'éphémère ou de transitoire. Il avait ceci de remarquable que véritablement, en tout cas quand j'avais la chance de le rencontrer, il était là, fidèle au rendez-vous, prêt pour une jam session inoubliable. Et l'association libre avec lui, autour de ce que nous aimions, c'est-à-dire évidemment la clinique, mais tant d'autres choses autour de l'art et de la poésie et de la musique, eh bien, donnait des moments tout à fait inoubliables. Grâce à toi, Alberto, j'ai découvert, j'ai mis le pied sur le continent d'Amérique du Sud. Et il y a une chose qui s'est passée sur le plan rythmique, sur lequel tu pourrais être intarissable, c'est ça. Il y aurait une conférence à part entière à faire, mais il y a ici des experts. Ce syncrétisme incroyable où l'esclavage, l'emprise du blanc sur le noir est terrifiante et où la séduction jésuite est à son firmament et dans un entremêlement tragique. Le candomblé est né, hein, c'est-à-dire que c'est du monothéisme, mais c'est saturé d'un polythéisme africain. Il y a une apparence, une vitrine catholique, et il y a une pulsionalité, une gouaille et des jaillissements tout à fait incroyables. Et c'est vrai que pour les croyants de cette véritable religion, eh bien, honorer les orichas, je dis bien,
Orishas.
Eh bien, c'est à la fois, effectivement, faire de la musique, mais c'est aussi se rapprocher des divinités du candomblé. Et c'est vrai que la première fois que j'ai été confronté, cette photo, c'est vraiment moi qui l'ai prise, alors qu'on allait s'apprêter à manger avec tout le groupe avec qui on avait travaillé le matin en 2007. Cette découverte a été assez incroyable et j'ai pu, grâce à Alberto, chemin faisant, reproduire véritablement ce qu'il en est de l'expérience de ce rythme qui est d'une puissance, d'une mobilisation, d'une attractivité tout à fait étonnant. Le rythme est vraiment au cœur de nos vies. Le début de la vie est dans les séances d'échographie, certes dans des pays industriels et pas dans l'ensemble du monde, mais c'est vrai que la vie prénatale montre le bout du nez à travers la rythmicité des mouvements embryo-fétaux. Et il y a là vraiment quelque chose de majeur qui est lié au commencement et qui est plein de ce suspense qui est saturé d'inquiétantes étrangetés, tant les origines sont barrées par l'interdit de l'inceste et en même temps diffusent une attractivité tout à fait phénoménale pour les commencements. Alors, je vais me concentrer sur la notion de rythme en clinique et je vais faire un patchwork où je vais à la fois rappeler l'ensemble, je suis immodeste, les grands axes de ce que Victor considérait comme incontournable pour envisager l'analyse du rythme. Et je ponctuerai, je vous le signalerai quand ça se produira, d'un certain nombre d'éléments que j'ai découverts chemin faisant, malheureusement depuis le départ de Victor. Et donc, dans un dialogue imaginaire, mais que je crois, comme je le disais ce matin, fermement authentique et vivant, eh bien, je les énoncerai pour continuer opiniâtrement le débat. Donc, vous le savez, en tout cas, vous le pressentez, la notion de rythme, une fois qu'on veut bien l'accueillir et laisser se mobiliser en soi tout ce qu'on sait de manière intuitive et plus raisonnée sur cette affaire, eh bien, le rythme, il est omniprésent dans la biologie des rythmes vitaux, dans la psychologie du développement, dans la psychanalyse, avec ce paradoxe insistant d'un inconscient zetlos atemporel et d'une temporalité psychique dont nous sommes en permanent des explorateurs sans relâche. Et puis l'art, qui est probablement, on l'a bien entendu depuis ce matin, le laboratoire qui permet de se rapprocher de l'expression et de Victor, de cet originaire incessant, hein, c'est-à-dire le complexe de l'archaïque qui vient finalement comme une permanente actualisation de la problématique des origines, qui, vous l'entendez bien, ne s'agit absolument pas de référer à un passé oublié, mais bien de l'envisager dans le ferment, dans la vivance de ce qu'il en est du présent se déployant, et donc de la subjectivation en pleine expansion. Il est de coutume, et Victor le fait tout à fait de manière académique dans son livre, de convoquer la racine grecque « rythmos » pour le rythme. Et en général, ce terme « pentare », « tout coule », eh bien, est vraiment référé au fluide, au mouvant, au pulsionnel et au modifiable. Et ce que j'ai découvert, et que j'aurais vraiment adoré discuter avec l'ami Victor, dans un dictionnaire très affûté de la langue française, c'est une autre racine que je n'ai pas trouvé évoquée jusqu'à présent, c'est la racine latine du rhythmus, qui elle signifie aussi mouvement, mais quand on creuse un petit peu, signifie mesure, cadence régulière. Donc je vous proposerai la métaphore suivante. Le rhythmus, ce sont les rives contenantes, et le rythmos, c'est le flux pulsionnel impétueux. Et probablement que dans la notion de rythme, il y a cette bipolarité, et que le moteur rythmique Évidemment, une fois qu'on le conçoit, ça n'est pas d'une très grande originalité, mais encore fallait-il l'énoncer comme tel. Eh bien, le moteur même de la rythmique, c'est cette confrontation, ce paradoxe entre quelque chose qui contient et qui va du côté d'une certaine forme d'une régularité et quelque chose du côté d'un flux pulsionnel qui, lui, se caractérise par, effectivement, un mouvement impétueux. Alors, si on remonte comme le saumon à l'origine, c'est vrai que dans mes dialogues avec Victor, c'était, comme avec un certain nombre de mes collègues en France, un petit peu toujours la même chanson. C'est-à-dire que je lui disais « Mais écoute, Victor, tu oublies le premier chapitre, c'est-à-dire le prénatal, ce que je considère comme étant véritablement l'aube de la vie humaine. » Et il était très fair-play, et je dois dire que quand j'ai lu le livre et les passages concernant ce point, il sobrement, parce que c'était vraiment le bébé et les indicateurs d'intersubjectivité, comme vous l'avez bien compris, qui lui tenaient à cœur, mais pour autant, il avait vraiment intégré ce qu'il en était de l'archéologie rythmique. Les exemples pullulent, rythme de succion, rythme évolutif du mouvement. Il suffit d'avoir assisté à ce qu'il en est d'une échographie pour comprendre ce qu'il en est. Alors, les travaux de Suzanne Maiello sur l'objet sonore prennent une place tout à fait importante et c'est émouvant de l'évoquer ici dans cette université dont il était originaire. Les travaux de Jean-Pierre Le Canuet, plus ancien, sur l'attractivité particulière des événements sonores rythmés versus des stimuli sonores non rythmés. Et Jean-Pierre Le Canuet était lui aussi un amateur d'improvisation de jazz et il savait ce que ça voulait dire que effectivement des stimuli rythmés. Il avait proposé un certain nombre de partitions à des fœtus dans le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse, et c'était vraiment impressionnant de voir ce qu'il en était de l'attractivité, les mouvements engagés simplement par effectivement cette source sonore externe. Bon, je ne reviens pas sur les travaux de Suzanne Maiello qui sont sûrement fondateurs et où là il s'agit effectivement dans l'habitat premier avec la présence, le rôle tout à fait important des vibrations transmises par le corps même de la mère au fœtus. Donc cette double approche du fœtus qui entend la mère, la voix de la mère par des voies de transduction vibratoire et qui entend toute la bande son de l'environnement. Et là, il y a probablement quelque chose, un écart que Suzanne Maiello a remarquablement mis en avant. Victor était particulièrement intéressé, il avait pensé, et toi aussi Alberto, inviter Maya Gracier à la soutenance de thèse comme membre du jury. Et c'est vrai que quand on fait une revue de la littérature sur le rythme, on trouve pas grand-chose du côté des psychanalystes. Par contre, effectivement, on trouve pas mal de choses en psychologie du développement, et notamment les travaux de Maya Gracier, qui, en s'insérant dans une filiation épistémologique assez riche en musicologie en France, à mi-chemin entre psychologie et musicologie, où on parle d'existence d'un métronome cérébral chez le bébé, d'anticipation sonore et visuelle du nouveau-né, de segmentation du flux verbal de la production de l'adulte et de compétences musicales tout à fait étonnantes. Bon, et je crois que ce qu'on a vu depuis ce matin, avec en particulier quelques passages vidéo, nous permet d'illustrer cela. Donc le rythme est vraiment perçu à travers la revue de la littérature et à travers les travaux engagés par Victor avant qu'il nous en propose une partition intersubjective. Le rythme est vraiment perçu comme une armature psychologique par Stern, qui, c'est tout à fait intéressant, Bernard Goltz disait qu'à la fin de sa vie, il était conseiller d'un grand ballet new-yorkais. Au début de sa vie, le jeune homme adorait la boxe. Il connaissait par cœur les grands combats de Mohamed Ali et il nous a dit, à plusieurs d'entre nous, combien est-ce que sa passion pour la rythmique mère-bébé était née de son attention sur les micro-rythmes des grands boxeurs, puisque effectivement, c'est le problème exactement inverse d'une mère, c'est-à-dire d'une mère ou un bon parent suffisamment bon, c'est d'arriver à être dans une négociation qui aboutit à un accordage rythmique, alors que pour le boxeur, il s'agit très précisément de percer la carapace et de rentrer dans les algorithmes rythmiques de l'autre pour pouvoir le prendre à contre-pied et le mettre KO. Et donc, Stern nous avait confié ça et on avait trouvé ça tout à fait intéressant. Alors, vous connaissez la polémique qu'un certain nombre d'entre nous on a pu voir de nos yeux vus et de nos oreilles entendues entre Stern et Serge Lebovici notamment. Stern disait que lui, les interactions comportementales et affectives, je pense que compte tenu de ce que disait Bernard, il pensait plus aux interactions émotionnelles, ça lui suffisait, et qu'il n'avait pas besoin des interactions fantasmatiques. Bon, il est bien certain qu'au jour d'aujourd'hui, dans la rythmique telle qu'on l'envisage avec Victor, le triptyque comportemental, affectif et fantasmatique est concerné, et la rythmique est évidemment prévalente, prégnante dans l'ensemble des trois aspects. Bon. La proto-conversation de la mère chez Maya Gracier, eh bien, elle est dotée, si tout se passe bien, de ce que Bernard Goltz a évoqué au sujet du grand jazzman français Martial Solal, c'est-à-dire de cette capacité de supporter l'éloignement d'un rythme obsédant et finalement mortifère, donc d'aller, si on le dit courageusement, vers l'erreur, l'erreur mélodique et rythmique, et de fournir un savant travail et un affectueux travail qui permet de se rapprocher d'un retour à l'équilibre. Mais c'est bien cette continuité-discontinuité qui est au cœur du dialogue entre la mère, le père et son bébé, et entre des musiciens de jazz. Et ça, Maya Gracier l'a véritablement montré avec des travaux où elle met des musiciens en leur demandant d'improviser, et elle essaye d'analyser de manière vraiment tout à fait micro-rythmique quelles sont les voies de modalisation d'accordage, et elle fait de même avec des séquences interactives entre des parents et des bébés. Il est souvent question chez Victor de Mesconic, des travaux de 1990, avec, et là c'est une pensée très courageuse passée à mon avis assez inaperçue, où comme pour Victor et un certain nombre d'entre nous, pour Mesconic, le rythme est vraiment une inscription du sujet dans son histoire. C'est-à-dire qu'on retrouve une atmosphère que peut-être certains d'entre vous connaissent avec l'identité narrative chez Paul Ricoeur, où le rapport au temps est véritablement la colonne vertébrale de ce qu'il en est de l'ontogénèse du sujet. Et là, chez Mesconic, c'est vraiment de cet ordre-là. Et je pense que Victor y était très sensible, puisqu'il ne mâche pas ses mots. Et j'ai le souvenir, c'est un peu spéculatif, de Victor me parlant d'identité rythmique en référence à nos discussions insatiables sur Mesconic. C'est pour ça que quand j'ai trouvé dans le bouquin « Style relationnel, style rythmique », j'ai trouvé ça un peu fade, un peu minimaliste. Donc, est-ce que c'est moi qui ai reconstruit dans ma mémoire l'ambition de ce terme d'identité qui est très complexe? Il ne fait pas partie du corpus psychanalytique, mais il est très, très ample. Et il me semble avoir, je prends le risque de dire, qu'en tout cas, Victor envisageait aller jusqu'à cette identité rythmique, sur cette empreinte rythmique. Donc, tout a été dit sur le rythme du handling et du holding et de sa trace. Peut-être moins connu, mais j'avais eu la joie d'attirer l'attention de Victor là-dessus. Donc un texte peu connu de Geneviève Hague de 86 sur l'organisation des pulsions vitales du bébé à travers la perception, la vie émotionnelle, l'émergence de la pensée et la rythmique des premiers contenants. Alors, Geneviève Hague l'a dit différemment à d'autres reprises, mais je trouvais que cette formule était tout à fait intéressante. Alors, on peut en arriver, évidemment, à la naissance du langage et de la pensée. Je vais aller vite. Bernard Goltz a bien entamé le sujet ce matin. La phrase, les microstructures rythmiques, les macrostructures rythmiques, les fins de phrase, les débuts de phrase, le bébé y est extrêmement sensible. Et les travaux de Jacques Meller ont montré que cette attention rythmique commençait très sérieusement lors du troisième trimestre de la grossesse et qu'elle était différenciable chez des fœtus qui avaient vécu l'apprentissage à Tokyo ou à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là quelque chose qui est à la lisière entre le neuro-cognitif et l'apprentissage avec l'environnement aérien. C'est-à-dire qu'on est dans une épigénèse, on est dans une dialectique complexe entre des virtualités embryo-fœtales et un environnement, mais en tout cas, il y a là quelque chose qui est aussi animé, gouverné par le rythme, et cela aboutit aux fameuses structures narratives que Stern a bien pu décrire, que Bernard Goltz et toute son équipe ont pu décrire dans le mouvement des mains, avec cette narrativité préverbale dont il a été aussi question avec Victor, qui connaissait bien les travaux de Peel, qui était venu plusieurs fois échanger avec toute l'équipe de Necker. Victor était très sensible, ça fait partie des incontournables, de ce qu'il en est de l'apport fondamental pour le musicien, pour le clinicien, de Marcelli avec cette opposition entre les macro-rythmes, donc les rythmes organisateurs des rituels des soins du bébé, et les micro-rythmes, le rythme des interactions du côté de la surprise. Et là, on retrouve ce que je vous disais avec le rythmos et le rythmus, hein, c'est-à-dire que c'est bien l'alchimie, la singularité, la co-création des différents musiciens, bébés, parents, qui va aboutir à une partition, à une musicalité particulière, faite donc de cet entremêlement de macro-rythmes et de micro-rythmes. Mesconic prend souvent l'exemple de la musique nazie, et on pourrait avoir quelques associations sur certaines formes musicales contemporaines du siècle dernier, où il y a quelque chose qui ressemble curieusement à un battement cardiaque, aux antipodes d'un battement cardiaque, dira le cardiologue, et qui effectivement constitue une répétition métronomique parfaite, absolue et morbide. Bon. On voit bien que dans la surprise, il y a là quelque chose qui vient signifier la vie, mais que cette surprise, ce qui bouge, ne peut avoir de sens, de construction intersubjective, dira-t-on dans un instant, que si effectivement il y a des rives contenantes et qu'il y a une assise qui permet d'envisager la métabolisation de ces événements pleins de suspense, pleins d'imprévisibilité. Victor débarquait la semaine prochaine, je lui dirais, écoute, à l'échelle de ton livre, on est bien d'accord pour dire que l'école de psychosomatique de Paris, ils sont restés pré-intersubjectivistes. Hein. C'est un peu navrant. Effectivement, il y aurait un petit coup de dépoussiérage à envisager de ce côté-là. Mais pour autant, il y a un certain nombre de choses intéressantes que je te proposerai d'envisager comme ça, avec notre boussole désormais intersubjectiviste, revisiter. Et je pense par exemple... Je pense qu'avec la clinique de la sucette, que nous avons explorée avec Nathalie Bouage en long, en large et en travers, eh bien je pense qu'avec la clinique de la sucette redistribuée dans un modèle intersubjectiviste, il y a beaucoup à entreprendre avec l'opposition entre qu'est-ce que c'est qu'un rythme auto-érotique créatif de vie, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent en train de se masturber sur un rythme qui prépare sa vie sexuelle adulte, et qu'est-ce que c'est qu'un adolescent déprimé se masturbant avec un rythme morbide qui exprime sa détresse et sa misère. Et on peut imaginer qu'il y a mille et un gris entre les deux, mais ça donne à penser, et je pense que la clinique de la sucette au quotidien est tout à fait remarquable pour envisager ce qu'il en est de la rythmique entre narcissisme de vie et narcissisme de mort. Étant entendu que le narcissisme primaire est déjà complètement pathologique. Enfin, on ne va pas se lancer sur ce débat-là aujourd'hui, mais le narcissisme primaire à la Freud, c'est déjà un tableau psychopathologique très inquiétant, puisque justement l'intersubjectivité n'y est pas. Et donc, observez autour de vous désormais les bébés avec des sucettes. Laissez-vous aller à une réflexion contre-transférentielle rythmique sur ce que vous observez et sur le contexte. Et vous allez voir que vous allez avoir tout plein d'idées qui vont vous venir. Bon. Donc voilà, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Le rythme a été peu présent, mais quand même assez, si on veut bien l'envisager ainsi, influent dans les grandes directions psychopathologiques du siècle dernier. Donc il y a à dire sur l'objet, la rythmique de l'objet partiel à l'objet total, sur l'équilibre narcissico-objectal, sur les conflits de séparation-individuation, sur, j'aurais aimé le dire en sa présence, sur la formidable notion de René Roussillon de dysrythmie. À mon avis, dans la littérature, c'est un des premiers à avoir utilisé ce terme dans ce sens-là, pas chez les musiciens, pas chez les musicologues, d'un traumatisme comme dysrythmie, c'est-à-dire non-respect de la loi biologique et du rythme propre au sujet. Bon. Mais là, c'est du Roussillon, si j'ose dire, radicalement intersubjectiviste. Et je pense que ce que nous apporte véritablement Victor Guéra de manière tout à fait radicale, et je le vis avec une grande satisfaction, c'est effectivement une déclinaison intersubjectiviste du rythme et d'une déclinaison intersubjectiviste qui constitue le nid de la subjectivation. C'est-à-dire que j'ai cru que Bernard Golz allait le dire pour enfoncer le clou ce matin, mais c'est-à-dire véritablement d'une assise intersubjectiviste qui constitue les rives contenantes de ce qui va pouvoir secondairement se déployer comme étant un rythme impétueux. Mais je pense véritablement là que tous les paramètres vus par Victor sont tout à fait utiles. Alors je me tourne vers les traducteurs. Pour moi, et j'étais content de voir que tant Victor que sa collègue utilisaient le terme d'anticipation, pour moi, je n'ai jamais trop entendu parler, Victor, de prévisibilité. Parce qu'on avait discuté pendant des heures, Marcella et moi, on a fait nos choux gras sur cette opposition entre qu'est-ce que c'est que la prévision, qu'est-ce que c'est que l'anticipation. La prévision, c'est la psychopathologie de l'anticipation. Une anticipation saine, elle intègre le fait que nul ne connaît l'avenir et qu'il peut se passer des choses imprévues. Et probablement un bébé de 6 mois qui va bien dans ses couches, c'est un bébé qui a intégré quelque chose de ce suspense dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire ma mère n'est pas un métronome, ma mère n'est pas un robot. Et que quand on part au marché tous les deux ensemble, bien sûr qu'il y a du qui bouge pas, mais il y a aussi du qui bouge. Bon, et que probablement être un bébé suffisamment bien dans son interaction et dans la relation, et être une mère suffisamment bonne, c'est être dans cet entrecroisement. Donc c'est une critique, mais quand je mesure le travail que toutes ces personnes ont pu faire l'été dernier et bien avant, je me trouve vraiment ingrat de pinailler sur des mots. Mais je pense quand même que prévisibilité et anticipation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Ensuite, je vous laisse découvrir, je ne vais pas les annoncer, tous les facteurs descriptifs de Victor pour cerner la complexité de la rythmique intersubjective, mais je dois dire que là, il a fait vraiment fort, et je me plais à imaginer que plusieurs d'entre nous, nous allons pouvoir nous inspirer de ses propositions pour envisager les réunions de synthèse et tous les dispositifs thérapeutiques psychanalytiques qui méritent d'être enrichis de cette rythmique d'une troisième topique enfin assumée. Alors, je finirai avec l'essentiel, avec la clinique, parce que, effectivement, ponctuellement, quand je discutais avec Victor, eh bien, il émaillait son propos d'une vignette clinique. Il le faisait avec beaucoup de talent. Et j'essayais de faire de même. Donc voilà, si débarquer la semaine prochaine et que je lui raconte un certain nombre de péripéties, je pense que j'aurais été content de lui raconter cette histoire de consultation thérapeutique avec Lisa 3 mois, qui est vraiment une histoire de dysrythmie, mais une histoire de dysrythmie qui a eu une première issue heureuse, mais qui finalement ne suffisait pas parce que nous n'avions pas dans la consultation réussi à aller vers la rythmique sexuelle conjugale. Je m'en explique. Donc je rencontre Lisa, 3 mois, et ses parents trentenaires. Lisa a une sœur aînée de 2 ans, ça se passe en libéral à mon cabinet, une sœur aînée de 2 ans plus âgée. Monsieur et Madame S se sont engagés tous les deux, on est là dans une frange de la population un peu particulière, puisqu'ils sont tous les deux en psychothérapie. Bon, ils sont des croyants, on va dire. L'analyste du père a donné mon adresse pour une consultation parent bébé, car, je le cite, Lisa envahit l'espace de l'analyse de ses coliques. C'est ennuyeux pour un analysant. Bon. Donc, c'est ce qu'il me dit au téléphone. Donc, à la première rencontre du trio, monsieur et madame S décrivent le malaise de Lisa et le leur avec fatalisme et une incompréhension que je trouve vraiment déjà teintée d'une certaine forme de dépressivité. Leur angoisse est palpable et s'impose d'emblée d'une profondeur qui dépasse et surdétermine le seul contexte actuel. Leur discours est à tous les deux répétitif, il y a une circularité rythmique, une répétition grinçante. Voilà. Et leur constat est convergent, c'est-à-dire qu'il peut se produire que madame et monsieur disent à 2 minutes d'intervalle à peu près la même chose, mais ils tiennent vraiment à ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui reprend la parole, il commence par dire « Ah, écoute, non, là, vraiment, je vois les choses différemment. » Et il dit, à certains égards, à peu près la même chose. Quoi. Donc, le consensus est possible, puisque manifestement, il existe, mais il n'est pas question d'apparaître uni. Bon. Le père, en parlant de rythmique, a un pied qui bouge en permanence, et la mère change de position vraiment très, très régulièrement. Et moi, j'ai le sentiment, contre-transférentiellement, que je suis très content et que ça, je vais vraiment en parler à Victor la prochaine fois qu'il va venir, que j'ai découvert qu'en aviron, celui qui donne le rythme est un rythmeur. Et donc, moi, j'ai un contre-transférentiel de rythmeur. C'est-à-dire, je me dis, j'aimerais, et là, mon passé de batteur frustré remonte, quoi. C'est-à-dire, j'aimerais dire, allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, et on y va, quoi. C'est-à-dire, on y va, quoi. Alors chacun, comme dans le camp d'emblée, joue sa partition. On n'est pas dans une partition nazie où tout le monde est comme un métronome qui fait la même chose que les autres. Mais on s'accorde, bon sang, on s'écoute, quoi. Bon. J'ai ce sentiment-là contre-transférentiel. J'initie une anamnèse associative et j'apprends un événement majeur, évidemment. C'est-à-dire que là, je venais d'assister quand même à quelque chose qui était une vitrine. C'est-à-dire qu'il y a eu un accouchement à domicile, manifestement catastrophique pour les parents. Au moment du départ, alors que madame avait perdu les os et commençait à avoir des contractions vraiment qui ressemblaient à ce qu'avait dit la sage-femme à la préparation à la naissance, quand il s'agit d'aller rejoindre la maternité, eh bien, le père était allé chercher la voiture au parking et quand il était revenu, il avait trouvé sa femme allongée par terre et la tête de l'enfant pointée déjà. Bon. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, je dirais, des contractions non contenues, hein, dans quelque chose qui, spatialement, est très rassurant quand on se représente une maternité qui accueille le déménagement écologique, le passage du dedans au dehors du fœtus devenant bébé. Et là, on avait vraiment l'impression de quelque chose qui s'était passé dans l'espace privé de façon tout à fait vraiment redoutable. Alors, les deux consultations suivantes, eh bien, vont vraiment tourner autour de l'apprivoisement de ce contretemps, donc à partir d'un certain nombre de récits d'un parent puis de l'autre, avec un allègement de leur volonté de ne pas du tout être d'accord, j'arrivais bon an mal an à faire en sorte, et ils arrivaient à faire en sorte quand même qu'ils produisent, qu'ils co-construisent un récit à la mesure de ce qu'ils avaient vécu de tout à fait incroyable. Bon. Mais Lisa, elle, restait, je dirais, vraiment dans une précarité psychomotrice, elle ne bénéficiait en rien d'un handling et d'un holding parental à la mesure de la situation. Elle avait des sursauts comme ça en carapace absolument impressionnants Et ce qui était aussi frappant de mon point de vue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un des parents prenait la parole et faisait cette production narrative salvatrice, eh bien, il ne pouvait pas à la fois faire cela et continuer de prendre dans les bras Lisa. Et donc, à chaque fois, il passait l'enfant, le bébé, à l'autre membre du couple. Et Lisa était tourneboulée par cette succession et véritablement en mauvaise posture. Donc là, j'avais vraiment un ressenti contre-transférentiel d'inconfort et de vertige en m'identifiant à cet enfant que je sentais véritablement sans assise et sans soutien véritable sur le plan psychomoteur et sur tout ce que représente la construction du sujet fondée à cette époque justement sur ce holding et ce handling. Qui plus est, les coliques ne s'améliorent absolument pas et les douleurs sont en pleine augmentation. Donc ce que j'ai fait, comme j'ai l'habitude de travailler avec Nathalie Bouage, gastropédiatre maintenant, gastropédiatre toujours mais devenue psychanalyste, j'ai orienté ses parents vers Nathalie Bouage en leur disant qu'on allait nous continuer à travailler ensemble. Donc je vais rapidement de ce côté-là. Je pense que le message de la liaison psychosomatique a été très important. Nathalie Bouage fait des consultations à la Léon Kressler où véritablement elle se positionne comme aux antipodes du clivage entre psyché et soma. C'est vraiment dans sa façon de proposer et à la fois un examen pédiatrique mais aussi une anamnèse associative. Elle est vraiment dans un ancrage psychosomatique tout à fait opportun. Et les parents ont été aussi très sensibles au fait que je leur dise et Nathalie Bouage leur dise que nous allions dialoguer. Ils reviennent me voir, consultation 3 et 4. J'apprends dans la filière transgénérationnelle que la mère a été hospitalisée entre 9 et 18 mois, séparée de sa famille, pour rachitisme dans un centre comme il en existait à l'époque. Et j'apprends que le père a vécu toute son enfance et son adolescence avec des parents qui se battaient véritablement physiquement, pas toujours, pas souvent, et le père insiste, de manière très imprévisible. C'est-à-dire que ça se produisait 2-3 fois par an, mais 2-3 fois par an, il y avait un moment d'explosion à la maison où, selon l'expression du père, il se foutait sur la gueule et il se tapait vraiment, et en général, il y en avait un qui, pas toujours le même, qui se retrouvait aux urgences parce qu'il se brutalisait véritablement. Là, la synergie entre les propositions de Nathalie Bouage, un certain nombre de conseils médicamenteux et de puériculture, et ce que je crois que nous avions touché enfin au niveau transgénérationnel, commençait à faire son effet. Et je sentais que les identifications projectives des parents à l'égard de Lisa et que leur contenance s'améliorait. Mais il y avait quelque chose, et j'accélère, qui s'est produit à ce moment-là et que je trouve tout à fait intéressant et j'aurais adoré en discuter avec Victor, c'est qu'il y avait quelque chose, et on était tombé d'accord avec Nathalie Bouage sur ce point, qui restait de dépressif et de triste chez ces deux parents, qui était content que Lisa aille mieux, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et enfin, je dirais, alors je le rationalise après coup comme ça, vous en jugerez, ce sont souvent des mises en sens qui reflètent plus notre compréhension des choses que la véracité incarnée de la situation clinique, j'ai enfin posé la question de savoir comment est-ce qu'ils s'étaient rencontrés à une consultation, ce devait être la 6e ou la 7e, et là, j'ai eu une réponse qui a été vraiment formidable, puisqu'il a été question de concert de hard rock, où l'un comme l'autre était vraiment passionné par le hard rock, et il passait les concerts à sauter devant les scènes de façon tout à fait insistante. Et ils me décrivent ça avec un enthousiasme tout à fait incroyable. Et ils se regardent et ils ont une association tout à fait impressionnante. Ils me disent, d'ailleurs, en ce moment, et depuis longtemps, finalement depuis que Lisa est là, notre vie sexuelle est sinistrée. Voilà. Donc là, vous voyez ce que j'essaye de mobiliser en commémoration de l'ami Victor, c'est que je pense que enfin, dans cette consultation, après plusieurs couches en oignon, on a touché quelque chose qui avait en rapport avec l'identité conceptionnelle, dirait Benoît Bayle, de Lisa. C'est-à-dire quelque chose qui, dans le passage du 2 à 3, dans la rythmique du passage du 2 à 3, avait été rendu difficile et complexe, et qui, effectivement, restait endeuillé, restait impossible. Voilà, donc j'aurais vraiment aimé la réaction de Victor à ce sujet-là. Voilà, donc là, mais le temps presse maintenant, je démontais ce qu'il en était des embrayeurs et des leviers de changement dans cette consultation. Je me contenterai de mettre l'accent sur, mais c'est une lapalissade compte tenu de tout ce qui a été dit depuis ce matin, une analyse transféro-contre-transférentielle, rythmique, déterminante dans les interventions du clinicien. C'est-à-dire que là, probablement, il y a vraiment quelque chose à explorer sur la base d'une sémiologie et d'une psychopathologie rythmique au niveau transféro-contre-transférentiel. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.